À chacun son Golgotha. Ou à chacun sa résurrection aussi. Parce qu'après Golgotha, il y a la résurrection. Psaume 89. De verset 39 à 43. On va regarder la vie de David. Psaume 89, verset 39 à 43. C'est la plainte de David, il dit, « Et pourtant tu as rejeté, tu as repoussé, tu t'es irrité contre ton oint, tu as dénigré l'alliance avec ton serviteur, tu as abattu et profané sa couronne, tu as détruit toutes ses murailles, tu as mis en ruine ses forteresses. Tous les passants le dépouillent, il est un objet d'opprobre pour ses voisins. Tu as élevé la droite de ses adversaires, tu as réjoui tous ses ennemis, tu as fait reculer le tranchant de son glaive, tu ne l'as pas soutenu dans le combat, tu as mis un terme à sa splendeur et tu as jeté son trône à terre. » C'est David qui dit ça dans Psaume 89, verset 39 à 43. Et pourtant, quelques versets avant, il n'est juste de rappeler la fidélité de Dieu. On voit le verset 20 du même chapitre. « Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, « J'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né. Le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. » En passant, c'est un psaume de Étan, l'Israélite, à propos de David. C'est écrit à propos de David. Il rappelle la promesse que Dieu a faite à David, que Dieu affirmerait son trône pour toujours. Puis là, au verset 39, comme on a lu tantôt, là, il dit, « Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé, tu t'es irrité contre ton oint. » Il mentionne tout ce que David vit, a vécu, une certaine période de sa vie, qui n'était pas conforme à la promesse que Dieu avait faite. Et qui était comme le contraire de la promesse que Dieu avait faite à David. Et auquel David avait droit, David s'attendait à cette promesse-là. David avait eu la promesse qu'il régnerait sur le peuple d'Israël. Dans ces versets-là qu'on a lus, c'est exactement le contraire. Il était abaissé, il était dans l'opprobre, il était sujet à ses ennemis. Exactement le contraire. Puis c'est ça que je demandais au Seigneur, mais pourquoi? Il semble que dans ce temps-là, tu n'as pas soutenu David. Pourquoi ces paroles-là ont été écrites dans la Bible? Parce que ça fait quelques fois que je disais ces paroles-là, puis je passais par-dessus parce que je les trouvais trop négatives. Je me disais, ah, c'est décourageant, ces paroles-là. Pourquoi, Seigneur, tu ne soutiens pas ta parole? Pourquoi ta promesse ne se réalise pas? Ici, comme on voit au verset 38, ça ne se réalise pas. Je m'ai autant oublié cette partie-là du psaume parce que je ne l'aimais pas. Mais là, Seigneur m'arrêtait là-dessus. Il dit, lis ça. Lis ces versets-là, parce que David, lui aussi, a vécu un Golgotha, comme Jésus sur la croix. Quand Jésus était sur la croix, il était le sujet de l'opprobre de ses ennemis. Il était le sujet de la moquerie de ses ennemis. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix, puis on va le croire. Hein, c'était exactement le contraire du Messie qui était supposé venir, qui était supposé régner, qui était supposé être glorieux. Puis Jésus sur la croix, il n'était pas glorieux. Il était au contraire dans l'opprobre, dans la honte, dans l'humiliation. C'était le Golgotha, c'était le calvaire. Mais David a vécu ça lui aussi. Dans le livre complet des psaumes, il y a 150 psaumes, mais il y a 5 livres. La Bible hébraïque divise le livre des psaumes en 5 livres. Puis le psaume 89, c'est le dernier psaume du troisième livre. Parce que c'est comme si Dieu avait vu, puis avait noté, puis avait permis aux Juifs de voir que dans la vie de David, il y a comme 5 étapes, 5 temps différents. Puis là, David, dans ce psaume-là, était à la fin de sa troisième étape. Parce que le premier livre des psaumes, c'est le psaume 1 jusqu'au psaume 41, qui est dans la Bible hébraïque. Il y a 41 psaumes dans le premier livre des psaumes. Ces psaumes-là, ça parle des péripéties de la guerre contre les criminels. Ça parle que David a vaincu Goliath. Ça parle des grandes victoires de David. C'est la première partie.
Des exploits.
Des exploits de David. Quand David a été roi comme Messie d'Israël, il a fait des exploits. Et là, ces premiers psaumes-là, ça parle de ça. Que Dieu vainc le criminel, Dieu vainc l'ennemi, le méchant. C'est le premier livre. C'est la première partie de la vie de David. Le deuxième livre, c'est le psaume 42 jusqu'au psaume 72. Ça, dans ces psaumes-là, on voit l'exil de David.
La fuite.
La fuite de David. Parce que David avait vaincu Goliath, avait vaincu tous les ennemis, mais il y avait un ennemi auquel David ne s'attendait pas. Il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un ennemi du sein même du peuple de Dieu. Ça, il ne s'attendait pas à ça. Parce qu'il était prêt à combattre les ennemis extérieurs du peuple de Dieu, les Philistins. Goliath était un Philistin, et tous les ennemis des Amalécites, tous ceux qui en voulaient au peuple de Dieu. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un ennemi du sein même du peuple de Dieu, un Juif, un Israélite, qui viendrait contre lui. Puis c'est pour ça que David a été obligé de prendre la suite. Psaume 42 jusqu'au psaume 72, c'est des psaumes de son exil. Devant quoi? Devant qui? Devant Saül, le roi juif, le roi des Israélites. L'ennemi était dans le sein même du peuple de Dieu. Puis ça, David, ça l'a dépassé. Parce que là, cet ennemi-là, il ne pouvait pas le combattre. Il ne pouvait pas tuer Saül. C'était contre la loi de Dieu. Il ne pouvait pas venir directement s'en prendre à Saül. Il fallait qu'il laisse Dieu s'en charger parce qu'il n'avait pas le droit de faire ça. C'était seulement Dieu qui avait le droit de juger son peuple. Et là, David est obligé de s'enfuir. Puis on voit ça, psaume 55. Ça fait partie du deuxième livre de psaume 55, le verset 10 à 24. Ok, psaume 55, les versets 10 à 24, David dit « Réduis à néant, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles, dans la ville de l'Éternel, dans la ville de Dieu, au sein même du peuple de Dieu. Et s'en font jour et nuit le tour sur les murailles, les iniquités et la malice le font dans son sein. La méchanceté est au milieu d'elle, il parle du peuple de Dieu. » Et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Et tu dis au verset 13, « Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. » Ce serait un ennemi de l'extérieur. « Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. » Puis il dit bien, « C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. » Mon frère, ensemble nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Hein, il parle d'un ennemi auquel il ne s'attendait pas, qui a jailli de soi-même du peuple de Dieu. Ça, c'est la pire affaire. C'est le pire des ennemis. Les ennemis en dehors de l'Église sont faciles à combattre. Mais les ennemis dans l'Église, quand le méchant se retrouve dans l'Église, oh, là, on a une tâche très ardue, très longue. Parce que c'est pas pareil. Combattre les ennemis à l'intérieur, tu peux pas les combattre de la même façon que tu combats à l'extérieur. Parce que ce sont des frères. Ce sont des gens qui appartiennent au peuple de Dieu. Et les ennemis surviennent toujours à cause de la méchanceté au sein du peuple de Dieu, à cause de la jalousie, à cause de l'envie, à cause de l'esprit de quelqu'un qui marche selon la chair. On le voit dans la vie de Joseph. Joseph, ça dit qu'il a été vendu par ses frères, parce qu'ils étaient jaloux de lui. Ils l'ont vendu. Le plus grand ennemi de Joseph, ça n'était pas ceux du dehors, ça était ses propres frères. Puis David, ça était la même chose. Son plus grand ennemi, ça n'a pas été les Philistins, ça était Saül. Puis tous ceux-là qui étaient avec Saül. La jalousie. L'envie que Saül a eue envers David, parce que David remportait des victoires, David avait reçu l'onction à sa place pour régner. Puis Saül est devenu jaloux. Saül voulait se débarrasser de David parce qu'il prenait trop de place. Saül s'est mis à haïr David et à vouloir le tuer. Et David a dû prendre la fuite pour sauver sa vie parce que David ne voulait pas tuer Saül. David ne voulait pas venir contre Saül, c'était son frère. Il savait qu'il n'avait pas le droit de faire ça parce qu'il devait marcher dans l'amour avec ses frères. Alors, David a dû s'enfuir de son pays. Et là, c'est là qu'on voit le deuxième livre, c'est le livre de l'exil. Et ce livre se termine avec 1 Samuel 27, le verset 1. La suite de David se termine quand? Le jour où il s'est enfui dans le territoire ennemi, c'est les Philistins. Imaginez, ses plus grands ennemis, David s'est enfui là, c'est là qu'a eu la paix avec Saül. 1 Samuel 27, le verset 1, ça dit, David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. » Alors que ça, c'est comme la fin du deuxième livre. Quand l'exil, quand la fuite devant Saül a-t-elle pris fin, c'est quand il s'est réfugié en territoire ennemi, chez les Philistins. Mais pensez-y, Dieu avait promis à David de régner sur Israël. C'était la promesse que Dieu avait faite de David. Mais là, David est obligé de s'en aller, même pas en Israël, s'en aller dans un territoire ennemi. C'est sûr que dans un territoire ennemi, la promesse de Dieu ne pourrait pas se réaliser. Il était en territoire ennemi. Mais il n'a pas eu le choix. Il est obligé de s'enfuir en territoire ennemi. C'est comme si David, dans ce temps-là, c'est là qu'a écrit le psaume 89. Parce que c'est là qui était obligé de s'enfuir, et c'est comme si pour lui, la promesse était morte. C'est comme, il ne régnait pas, là. Il n'était pas en train de régner, au contraire, il était en plein centre du territoire ennemi. Pour lui, ça était comme la mort. Puis c'est ça, le troisième livre des psaumes, c'est le psaume 73 jusqu'au psaume 89. C'est appelé des psaumes de méditation du passé, dans l'attente des fins dernières, dans l'attente de la promesse. C'est comme si David a vécu un Golgotha, il est mort à sa promesse que Dieu avait faite de régner sur Israël, il est mort à sa promesse pendant tout le troisième livre, c'est comme si il a vécu l'ensevelissement, il a vécu l'enterrement, comme Jésus. Jésus est mort à Golgotha, puis ensuite il était dans le tombeau un jour et demi, enseveli, Il n'y avait plus rien. C'est comme si le grain de blé qu'on jette en terre, on met de la terre par-dessus, puis on ne voit plus. On ne le voit plus. Puis David a fait la même chose. C'est comme s'il a vécu son Golgotha, puis là, ça dit bien, 1 Samuel 27, verset 7, « Le temps que David demeura dans le pays des Philistins fut de 1 an et 4 mois. » 1 Samuel 27, verset 7. « Pendant 1 an et 4 mois, David était dans le pays des Philistins et il était comme mort. Il était comme enseveli, enterré. On ne le voyait plus. On ne le voyait plus dans le pays d'Israël. Tout le monde disait, c'est fini avec David. Il s'est découragé, il a perdu foi. Il est allé dans le pays des Philistins. C'était comme, il était mort. Comme on disait avec Jésus, quand il était enterré. Dans le tombeau, on a dit, c'est fini. Il est enterré. Hein, les disciples pleuraient. Notre Messie, celui qu'on pensait être le Messie, c'est fini. C'est la fin. C'est là qu'on voit le psaume 89. Tu as rejeté. Tu as méprisé. Tu as jeté son trône à terre. David a vécu son Golgotha là. Son ensevelissement, il a vécu ça là. Comme Joseph, quand il a vécu son Golgotha, lui, dans la prison, et comme Jésus a vécu dans le tombeau. Mais c'est ça, il vient à la résurrection. Un moment, Dieu est intervenu. Mais pour que Dieu intervienne, il faut que le grain de blé ne meure. Pourquoi? On dirait que Dieu permet cela pour que justement, ce n'est pas nous qui allons accomplir la promesse de Dieu. Ce n'est pas avec notre force qu'on va accomplir la promesse de Dieu. Puis on dirait que Dieu permet ça justement. Il nous amène dans une complète incapacité, impossibilité d'accomplir sa promesse. Parce que, en nous, quand David avait reçu l'onction pour roi d'Israël, il pensait, ça y est, je vais régner sur Israël. Hein, les gens vont voir, puis là, tout le monde va reconnaître comme roi. Mais ça n'a pas été le cas. On a voulu le tuer. Au contraire, Saül, quand il a vu que Dieu était avec David, il a voulu le tuer, il a voulu le tasser. Mais David, à un moment donné, il a dû s'enfuir dans le territoire philistin, et c'est sûr que là, il ne pouvait pas accomplir la promesse de Dieu. Avec ses propres forces, il ne pouvait pas accomplir la promesse de Dieu. Puis c'est comme si Dieu permet ça, il veut permettre ça dans notre propre vie. Il veut amener la promesse que Dieu nous a faite, il veut l'amener à la mort, au travers de la mort de notre âme. C'est parce qu'il y a quelque chose, à quelque part, c'est comme si notre âme veut toujours aider Dieu à, Seigneur, je vais t'aider un petit peu à accomplir ta promesse, tu retardes, je vais t'aider. Et Dieu dit non, tu ne peux pas m'aider. C'est pour ça que Dieu amène notre âme à la mort. Parce que, quand on accepte Jésus, notre esprit pécheur a été crucifié avec Christ. On le sait ça. Le jour qu'on accepte Jésus, qu'on donne notre vie, on reçoit un nouvel esprit. Notre esprit est mort avec Jésus-Christ, a été crucifié avec Christ à la croix. Ça, c'est notre esprit, c'est la racine de notre vie, c'est notre souffle. On est changé de souffle. Mais notre âme, elle, notre âme, qui est notre pensée, notre intelligence, notre sagesse, notre volonté, cette âme-là, elle ne meurt pas à la croix. Elle est juste lavée, changée. Cette âme-là, quand elle reçoit une promesse de Dieu, parce que on commence à suivre Jésus-Christ, Christ, par son esprit, commence à fortifier notre esprit, il commence à nous donner ses promesses, là, notre âme, c'est comme si notre sagesse, notre intelligence, on voudrait commencer à aider Dieu à accomplir sa promesse. Puis c'est pour ça qu'il commence dans notre vie un long processus de mise à mort de notre âme. Dieu va envoyer notre âme au désert, comme j'avais déjà dit. Mais il faut que notre âme subisse un Golgotha, une fin. La fin de sa ressource, la fin de son moi, de l'âme. Puis c'est ça que David a vécu dans le territoire des Philistins. C'était fini. Il savait que rien que de sa part, la promesse de Dieu ne s'accomplira jamais, si c'était rien que de lui. Il savait que ce n'est pas par son âme qu'il accomplirait la promesse de Dieu, par sa volonté, par sa sagesse. Non. Dieu lui-même devait intervenir. Le Golgotha, c'est le moment où l'âme est mise à mort, est enterrée, puis là, juste Dieu peut intervenir. Puis c'est là que la résurrection arrive. Quand notre âme n'est plus dans le chemin, quand ma volonté, ma sagesse, mes désirs personnels, ils sont brisés, ils sont à terre. Je sais que je ne peux plus rien faire, Seigneur. Je sais que je suis dans un endroit, comme Joseph dans la prison. Seigneur, s'il n'y a pas un miracle, je meurs ici. C'est fini ma vie, fini ici. Ta promesse ne se réalisera jamais. Parce que Joseph aussi avait une promesse. Dieu avait promis depuis longtemps, par les songes qu'il avait eus dans sa jeunesse, qu'il régnerait sur son peuple, qu'il verrait ses propres frères, son père se prosterner devant lui. Comment cela allait s'accomplir, il ne le savait pas. Mais, dans la prison, une chose qu'il savait, c'est qu'il ne pourrait pas accomplir cette promesse-là par lui-même. Son âme ne pourrait jamais accomplir cette promesse-là. Dieu devait intervenir pour accomplir sa propre promesse. Puis David, c'était la même chose. Quand il était rendu chez les Philistins, c'était fini, là. Sa promesse, elle venait de tomber en terre, de mourir là, elle aussi. Sa vie était finie. Mais sa foi n'était pas finie. Sa foi continuait à espérer en Dieu. Même s'il dit, Seigneur, tu as rejeté, tu as méprisé, on le voit, il vient juste de dire, Seigneur, tu as aussi promis. Ta promesse reste là, ta promesse reste ferme. Puis même s'il y a une période de mort, comme un Golgotha, il y a toujours une résurrection qui arrive après. Puis c'est ça qu'on voit. Le troisième livre, c'est les psaumes 73 à 89. Ça finit avec le psaume 89 qu'on a lu tantôt, qui était comme la mort, le Golgotha, l'enterrement. Mais à partir du quatrième livre, qui est le psaume 90, jusqu'au psaume 106, c'est comme si les psaumes prennent toute une nouvelle tournure. Les livres des psaumes changent complètement. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, c'est qu'à partir du psaume 90, on peut dire le cap des douleurs est passé, est en arrière. À partir du psaume 90, on ne voit plus David vivre des situations aussi tragiques, terribles, que ce qu'il a vécu avant. Au contraire, là, plus ça va, plus qu'il y a de la louange, plus qu'il y a de la joie, plus qu'il y a de l'adoration, à partir du psaume 90. Puis on le voit, on peut juste prendre quelques exemples. Psaume 90, c'est le psaume 91. Mais on voit le psaume 93, le verset 1. On va lire juste quelques psaumes dans ce quatrième livre-là. Psaume 93, le verset 1. Ça change de tournure. Psaume 93, verset 1. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu des saints de force. Psaume 97, verset 1. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Psaume 99, verset 1. L'Éternel règne, les peuples tremblent, il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. C'est tout des psaumes de grande joie, parce que c'est comme si Dieu a manifesté son règne. Parce que si David a vécu un Golgotha, un enterrement, un ensevelissement lui aussi dans sa vie, il a vécu aussi une résurrection. Dieu est intervenu. La puissance de Dieu est arrivée dans sa vie et ce que la promesse que Dieu avait dit à David s'est accomplie. On voit ça dans 2 Samuel 1 à 4. Il faut remarquer aussi, quand est-ce que la résurrection pour David est arrivée? C'est quand Saül est mort. Le point tournant de la promesse de David est arrivé à la mort de Saül, à la mort de l'ennemi qui était à l'intérieur du peuple de Dieu. David savait qu'il n'avait pas le droit de lui-même, avec sa propre force, de venir contre Saül. Il n'avait pas le droit. Dieu lui interdisait de venir contre le roi de l'Éternel qui était Saül. Mais Dieu lui-même est intervenu. Et 2 Samuel le chapitre 2, on voit Saül est mort. Et qu'est-ce qui est arrivé à David après cela? David consulta l'Éternel. 2 Samuel, chapitre 2, verset 1. David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je dans une des villes de Juda? » L'Éternel lui répondit, « Monte. » David dit, « Où monterai-je? » Et l'Éternel répondit, « À Hébron. » David y monta avec ses femmes, Ahinoam de Jizréel et Abigaal de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans les villes de Juda, dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent et ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. Le règne de David a commencé après la mort de Saül. C'est pour ça que les psaumes, le quatrième livre, qui est le psaume 90 jusqu'au psaume 106, c'est des psaumes de règne. Puis le cinquième livre, qui est le psaume 107 jusqu'au psaume 150, on pourrait appeler ça les dernières étapes d'une ascension. Il y a 15 psaumes dans ce cinquième livre-là qui sont appelés les psaumes de l'ascension, de la montée. Alors, on parle toujours de psaume de la montée, psaume de l'ascension. C'est David qui continuait à monter parce qu'il a commencé à régner à Hébron. Attention, on va le voir. Le cinquième livre, il commence à régner à Sion, à Jérusalem. Donc, c'est la montée à Sion. Son règne prend de l'ampleur, il prend de l'ampleur, il prend de l'ampleur à cause de Dieu. Mais le point tournant, c'était ce Golgotha. À chacun son Golgotha. Dans la vie de tout serviteur de Dieu, avant que la promesse de Dieu puisse s'accomplir, c'est comme si Dieu nous amène à une période de mort. Il faut mourir à la promesse. Ça, c'est au niveau de l'âme. Il y a comme un long processus où Dieu nous amène à changer de caractère, à changer de pensée, à changer d'intelligence, à ne plus se confier dans toutes nos ressources personnelles. C'est ça. C'est comme si Dieu amène la promesse que lui-même avait donnée, qui était sa promesse. C'est comme s'il fait tomber cette promesse-là en terre. Puis là, il amène notre âme aussi, toute notre sagesse, tout aller en terre avec elle, pour dire, c'est pas toi qui vas l'accomplir. C'est Dieu seul qui va l'accomplir. C'est ça qui forme justement le caractère du serviteur de Dieu à l'image de Christ. Parce que c'est comme une mort, c'est comme une petite larme est obligée d'emmener, d'aller dans un processus de mort qui est à longue échéance. Puis au bout de ça, c'est la lumière au bout du tunnel, c'est la gloire de Dieu, c'est la résurrection qui permet d'arriver. Parce que c'est comme si la gloire de Dieu ne peut pas se manifester tant que la personne marche encore selon son âme, tant que c'est encore ma sagesse personnelle. C'est pour ça qu'il amène ce long processus d'emmener notre âme au désert avec lui, puis de la faire mourir avec la promesse. Notre âme meurt, mais la promesse meurt aussi, d'une certaine façon. C'est comme si la promesse de Dieu est arrêtée, mais c'est juste temporaire. C'est juste une période avant l'explosion, avant la résurrection. C'est comme si Dieu permet ça. Et on disait, par exemple, les livres de Catherine Kuhlman, je ne sais pas si tu connais, la femme qui a eu un grand ministère de guérison aux États-Unis. Mais elle mentionne dans son autobiographie qu'à un moment donné, elle dit, Catherine Kuhlman est morte. Elle a su dans son âme que c'est comme si elle était morte au niveau de son âme. Son ministère a commencé là. Elle a vécu une sorte de Golgotha et c'est là que son ministère a commencé à grandir, à prendre expansion. Mm-hmm. Et on lit des livres comme Yonisho dit la même chose. Mm-hmm. Il dit qu'à un moment donné, le grand Yonisho a dû mourir. Mm-hmm. Puis c'est à partir de ce moment-là que Dieu a pu commencer à manifester son règne. Mm-hmm. Mais c'est vrai dans la vie de tout serviteur de Dieu. L'âme ne va plus être dans le chemin. Puis pour ça, c'est comme si Dieu a un désert pour notre âme, un lieu de Golgotha, puis un lieu d'enterrement, où là, on va être comme dans une certaine période où il semble que la promesse de Dieu est arrêtée, la promesse de Dieu est finie. C'est fini. en territoire ennemi, c'est sûr que je ne régnerai pas en territoire ennemi. David devait se dire ça dans les territoires des Philistins. Et puis, c'est sûrement pas ici que la promesse de Dieu va se réaliser. C'est sûr. Puis, c'est la même chose pour nous autres. Quelquefois, Dieu peut permettre des situations très éprouvantes au sein même de l'Église. Des rejets, du mépris, complètement rejetés, se retrouver presque dans le monde. Mais Dieu a son plan là-dedans. Dieu a son plan parce que dans ce désert-là, Dieu brise le caractère de son serviteur. Il le forme à son image. Il change, il transforme notre intelligence. Il nous rend comme lui. Dans ce processus de mort-là, il nous rend comme lui. Et à un moment donné, la promesse qu'il nous a faite à chacun s'accomplit. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas perdre espoir. Dans ce processus-là, il y a la résurrection. Il y a ce que Dieu a promis. Tel que Dieu l'a promis. À la manière que Dieu l'a promis. Mais c'est comme si on ne peut pas éviter ce Golgotha-là. On ne peut pas éviter ce lieu-là, ce temps de mort. On ne peut pas éviter, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est comme si, dans la vie de chacun de ses serviteurs, il y a un temps de mort. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder avec nos yeux naturels. Est-ce qu'on a regardé avec nos yeux naturels Joseph dans la prison? On aurait pu dire, qu'est-ce qu'il fait là? C'est fini, c'est pas un serviteur de Dieu dans une prison. On aurait pu dire, c'est fini, Joseph, et c'est certain que Joseph, ses promesses, oublions ça. Puis c'est la même chose avec David, puis c'est la même chose avec Jésus qui était sur la croix, puis quand il s'est retrouvé dans le tombeau, bien, tout le monde disait, il a été vaincu. Mais non, c'est pas ça. C'est justement là qu'est la victoire. Parce que là, c'est comme si Dieu, enfin, il enlève l'âme dans le chemin, il enlève la vieille façon de penser, il peut mettre ses pensées à lui, il enlève la vieille intelligence, il peut mettre son intelligence à lui, sa sagesse, puis là, c'est comme si Dieu est libre d'intervenir. Dieu accomplit sa promesse. Alléluia. Amen. Quelle espérance. À chacun son Golgotha, mais à chacun sa résurrection. Alléluia. Amen.